spirituelle. Enquête spirituelle. Découvrez votre spiritualité avec Amy et Laurent. Enquête spirituelle. Le podcast, rendez-vous sur notre site www.enquête-spirituelle.com.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Enquête Spirituelle. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, vous nous écoutez bien évidemment en podcast. Vous avez l'habitude maintenant pour cette nouvelle saison 4 sur notre site internet www.enquête-spirituelle.com et également via le podcast, via iTunes. Vous vous abonnez, c'est entièrement gratuit et vous pouvez télécharger toutes les émissions autant de fois que vous le voulez. Dès qu'il y a une nouvelle émission, ça se télécharge automatiquement soit sur votre ordinateur, votre tablette, votre lecteur MP3, iPhone et tout smartphone compatible. Et également depuis une petite semaine, vous avez la possibilité maintenant de télécharger aussi directement toutes les émissions sur le site internet dans la page téléchargement. Il suffit de s'inscrire sur le site et vous avez accès à toutes les émissions aussi en MP3 de ce niveau-là. Amy, bonjour.
Bonjour Laurent, comment vas-tu ?
Ça va très bien et toi ?
Mais très bien, merci.
Alors bien reparti pour une nouvelle émission Enquête spirituelle et tu nous as sélectionné un invité qui va normalement écrire d'ailleurs dans le magazine.
Voilà, tout à fait, c'est une personne, donc c'est Jérôme Amiel. Bonjour Jérôme.
Bonjour Amy.
Bonjour. Donc qui nous a contacté par rapport à son témoignage. Donc il a fait un pèlerinage jusque Saint-Jacques-de-Compostelle. On a été assez touchés par son témoignage, son parcours. Donc aujourd'hui on va en parler ensemble. Voilà, donc bonjour Jérôme. Pourriez-vous nous expliquer un peu votre parcours ?
Vous présenter.
Ouais. Alors bonjour Laurent. Alors moi je m'appelle Jérôme Amiel, j'ai 30 ans et en mars de l'année 2013 j'ai débuté un pèlerinage donc vers Saint-Jacques-de-Compostelle, donc de Namur à Saint-Jacques, donc soit 2500 km. Et je ne l'ai pas fait comme cela, c'est sous une demande. Et alors la demande est venue de très haut puisque c'est le Dieu qui me l'a demandé. Alors pour t'expliquer un peu pourquoi, il faudrait remonter assez loin dans ma jeunesse. En fait, depuis l'âge de 9 ans, je suis assez, moi la spiritualité c'est assez fort, suite à des expériences un peu troublantes. Donc ma curiosité a vraiment grandi d'une force vraiment divine, si je puis dire.
D'accord, c'est venu comment depuis l'âge tout petit? Vous aviez déjà par exemple des visions, des flashs, vous entendez des choses?
En fait, à l'âge de 9 ans, si vous voulez, mon arrière-grand-mère est décédée. Et en fait, la nuit de son décès, elle est venue me voir dans mes rêves. Mmh. Donc elle s'est présentée à moi. Il faut savoir que cette dame, j'avais très peur de cette dame, puisqu'en fait, elle avait un visage marqué. À l'époque, moi, je la considérais comme méchante, puisqu'elle avait un visage noir, mais en réalité, c'est juste qu'elle avait vécu. Et j'avais très peur d'elle. Et en fait, quand elle s'est présentée à moi, elle était devenue très jeune, en fait. Et en fait, si vous voulez, elle m'a fait visiter un peu, entre guillemets, le paradis ou une autre dimension. Et donc, si vous voulez, on parlait d'une par transmission de pensée. Ses lèvres ne bougeaient pas, j'entendais tout ce qu'elle disait, mais juste dans mes pensées. Et donc moi maintenant je peux définir le monde comme je peux le voir et le croire surtout. C'est-à-dire que vous prenez deux papiers calques, vous prenez un premier papier calque, vous allez faire un dessin dessus. Une fois que vous avez terminé ce dessin, vous allez le mettre de côté, vous allez prendre le deuxième papier calque. Au niveau du deuxième papier calque, vous allez faire un dessin complètement différent. Une fois que vous avez terminé ces deux dessins, vous allez les assembler, vous allez les mettre à la lumière. Et ces deux dessins mis à la lumière, ça fait un seul dessin. Mmh. Donc, moi, c'est ma vision de la vie, si je puis dire. C'est-à-dire que tout autour de nous, il y a des centaines, des milliers d'âmes, si je puis dire. Et voilà. Donc ça, c'est ma première expérience.
D'accord.
J'avais l'âge de 9 ans, ce qui a vraiment éveillé ma curiosité, puisque il faut savoir que le lendemain, j'ai dit à ma mère, écoute, maman, mes mères, elle est morte. Elle me dit, arrête tes bêtises, c'est pas possible, tu dis des bêtises. Un quart d'heure après, on l'appelle, c'est l'hôpital qui l'appelle et qui lui dit, effectivement, qu'elle est décédée. Là, elle me regarde vraiment. D'accord. Avec des yeux un peu hébétés. Donc de là, j'ai commencé à, voilà, à piocher dans les bibliothèques, à prendre des bouquins pour savoir un petit peu quoi, ce que j'avais vécu, voir si c'était dans ma tête ou pas. Et de fil en aiguille, bah voilà, j'en suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui, dans la spiritualité. Comme c'est très bien écrit dans l'article, vous allez pouvoir le lire, c'est que dans ma spiritualité, c'est 3 pas en avant, 2 pas en arrière. D'accord. Vraiment. Pour plusieurs choses, déjà, digérer ce que j'apprenais. Le fait d'appréhender l'inconnu, parce que ça fait peur quand même. Ça reste quelque chose qu'on ne voit pas. Et voilà, tout simplement. Et là, je suis arrivé à un point où je ne peux plus revenir en arrière, où je sais trop de choses, entre guillemets. Sans vouloir inventer ni rien. C'est juste que, voilà, je suis arrivé à un point où je peux plus reculer.
Et vous n'avez plus de doute, j'imagine.
Excusez-moi ?
Vous n'avez plus de doute. Des fois, on arrive à un moment de notre vie où on ne doute plus.
Des doutes, je doute plus de moi-même plutôt que de mes croyances, que de mes convictions. Je me remets en cause tous les jours, parce que je pense que c'est important, c'est ce qui fait avancer. Bien. Maintenant, effectivement, au niveau de mes croyances, j'ai plus de doute. Voilà. Je sais qu'il y a quelque chose de très haut. Moi, je le nomme Dieu, mais je le nomme pas de façon catholique. Ce que je veux dire, je le vois plus comme on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler l'univers, on peut l'appeler le grand tout, mais il y a quelque chose. Ça, c'est sûr. Donc, il faut savoir qu'il y a un peu plus d'un an, j'ai perdu mon emploi après 8 ans d'ancienneté. C'était un emploi de commercial, donc j'avais, comme on dit, les dents qui rayaient le plancher. J'étais attiré que par l'argent.
D'accord.
Et je me croyais vraiment indéboulonnable, en fait, puisque j'étais un excellent vendeur. Et voilà, et la crise est passée par là et a fait que je me suis fait licencier.
D'accord.
Où j'ai pas à me remettre en question, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui se sont fait licencier. Mais toujours est-il que voilà. Quelques semaines après, j'ai perdu ma petite amie.
D'accord.
Là, j'avais 2 choix. Soit je sombrais, soit je faisais quelque chose d'extraordinaire pour moi, quoi, tout simplement. Et je me suis rattaché juste à ce que j'avais, à savoir la spiritualité. Et il y a très très longtemps, j'avais entendu parler de l'écriture automatique. Intéressé, et j'ai jamais osé le faire. Honnêtement, j'ai jamais osé, puisque c'est pareil, comme je vous parlais, c'est l'inconnu. Il faut savoir que ma mère, par exemple, est très, très spirituelle, mais elle avance dans la peur, en fait. Ce qui fait qu'elle m'a inculqué des peurs.
D'accord.
Et là, en fait, j'ai passé outre ces peurs et j'ai commencé à écrire. Voilà. Alors là, contre toute attente, c'est vraiment parti tout seul, vraiment. Et j'ai commencé à capter mes guides. Et donc, je peux vous dire à l'heure actuelle, c'est que j'ai 3 guides. D'accord. Donc, j'ai mon arrière-grand-mère, justement. J'ai ma petite sœur jumelle.
D'accord. En fait.
Et j'ai un ami qui s'appelle Maxime, qui est décédé d'une méningite foudroyante à l'âge de 15 ans. Et donc, voilà. Et donc, j'ai commencé à capter. Et donc, voilà, ça, on parle. J'appréhende vraiment... ce qui arrive, quoi, en fait. Et j'arrive au moment où je remets justement en doute ma santé mentale. Un matin, comme ça, je me dis, c'est pas possible, je suis fou. Donc, là-haut, je demande là-haut un signe. Je demande une plume. Je me souviens, j'étais devant chez mes parents et je fumais une cigarette. Et là, je me laisse guider, je laisse mon intuition me guider. J'entends vraiment, va sur le trottoir. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais sur le trottoir. Tout en leur disant bien que si je trouvais cette plume, ils faisaient ce qu'ils voulaient de moi. Je leur donnais mon corps. Et alors, vous allez voir, c'est impressionnant, vraiment. Donc, je vais sur le trottoir, là j'entends « va sur la gauche et sois attentif ». Alors, vous n'imaginez pas à quel point je suis attentif, quoi.
Ouais.
Vraiment. 2 mètres plus loin, dans les buissons, je trouve une plume de pigeon. Là, vraiment, je me revois vraiment taper dans les mains et leur dire bravo. Hein. S'ils sont passés, franchement, ils ont dû me prendre pour un fou. Et donc, là, vraiment, mon cœur, il commençait déjà à s'emballer. Hein. Je rentre chez mes parents, je mets mon blouson sur les escaliers, je vais dans la cuisine, et là, une plume blanche, immaculée, qui tombe du plafond. Il faut savoir que chez moi, il n'y a pas de doudoune. Il n'y a pas de choses qui pourraient. Apporter une plume comme ça, mais surtout tomber du plafond comme ça, hein, je veux dire. Et en tant que cette plume, mon père regardait le journal de 13h, Et il y avait un reportage sur un homme qui était déguisé en super-héros et qui était dans une classe américaine. Et il disait à des enfants, je veux que vous soyez vous-même, je veux que tu sois toi-même. Et il criait de plus en plus fort jusqu'à un moment où ça a retenu mon attention et j'ai regardé. Et la plume plus ça, je me suis dit, ouh, là c'est quand même quelque chose de fort. Ce qu'on appelle les synchronicités, quoi.
Ouais.
Et là, en fait, cette plume, je l'ai gardée. Je l'ai mise dans une poche où je l'ai bien fermée pour la montrer à ma mère une fois qu'elle serait rentrée du travail. Une fois qu'elle est rentrée et que j'ai voulu prendre cette plume, il n'y avait plus de plume.
Ah oui.
Invraisemblable quand même. Hein. Et donc, de là, j'ai toujours, là, avec ce qui venait de se passer là, j'avais toujours pas compris que c'était le jeu, hein, honnêtement. Hein. Mmh. Après, de fil en aiguille, il y a des personnes qui m'ont dit de lire Conversation avec Dieu. Et je sais pas, ça faisait plusieurs fois qu'on me disait ça, mais jamais, ça avait pas fait tilt. Et d'un coup, ça a vraiment été coup de grâce, puisque une amie me dit, maintenant il faut que tu lises ça, il faut que tu ailles le chercher maintenant. Et donc au final, qu'est-ce que je fais? Je fais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et je me laisse guider, en fait, si vous voulez, j'étais fan de football, de ancienne. Et c'était un samedi, je me dis, je vais me laisser guider. Donc je prends ma voiture et vraiment je me laisse guider, je laisse mon intuition aller et j'arrive à Valenciennes. Donc c'était un samedi, moi je pensais qu'il y avait foot, super. Et je gare ma voiture en centre-ville et je vais me promener et je laisse toujours cette intuition. Là je tombe sur une exposition animalière en plein milieu du centre-ville où je vois des loups. Alors moi j'ai toujours voulu voir des loups, c'est bête hein, mais après c'est des choses qui me parlent à moi. Et j'ai vraiment vu, là c'est majestueux un loup, vraiment. Et une fois, voilà, j'ai discuté un petit peu avec la personne qui s'en occupait. Et là je pars en fait, je vais à la Fnac. Et là je vais au rayon spirituel et je trouve Conversation avec Dieu et je trouve les trois tomes. Je me dis, ouais, je vais pas acheter les trois tomes, j'ai déjà acheté le premier. Donc je l'achète, voilà. Je commence à le bouquiner en attendant le match de foot. Et au final, à un moment donné, je me dis, je vais peut-être envoyer un message à des amis, voir à quelle heure ils arrivent. Et j'envoie ce message, et au final, il n'y avait pas match.
D'accord.
Donc, je me suis retrouvé en plein milieu de Valenciennes, un peu paumé. Et je me suis dit, c'est pas grave, j'ai laissé mon intuition faire, et c'est que ça devait arriver. Et il faisait beau à ce moment-là, je me suis assis sur un banc, j'ai commencé vraiment à lire, et je tombe sur le fait que Dieu explique à cet auteur, à cet écrivain, que il peut prendre n'importe quelle forme. Et là, on m'envoie l'image vraiment de la plume, là, vraiment. Je me rends compte que depuis quelque temps, je discutais avec une énergie beaucoup plus haute que mes guides. Et il y a une complicité qui s'installe, à tel point que, voilà, je l'appelle mon loulou des fois, oui.
D'accord.
Particulier, mais voilà, c'est pas un... En fait, si vous voulez, je crois pas en un jeu punisseur et revanchard, vous voyez.
D'accord.
Et voilà. Donc, à un moment, je demande ce que je dois faire, en fait. Quelques jours après, je demande, parce que vraiment, je me sens pas bien, il faut que je relève la tête. Et il me dit, tu vas marcher jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle.
D'accord.
Mais je fais le fanfaron, je dis, oui, il n'y a pas de souci, ça fait 10 ans que je veux le faire, pas de souci. C'était le 24 mars. Vers 11h du 23h, vers 23h. Et je demande quand je pars. Il me dit le 25 mars. Et là.
Le lendemain, quoi.
Le lendemain, voilà, j'ai une nuit pour tout préparer. Et je me dis, c'est pas possible. Et je le dis clairement, hein, parce que j'avais commencé à écrire un journal, en fait, et où je retranscrivais tous ces dialogues. Et je dis clairement, c'est impossible. La réponse, l'impossible est possible. Or, pas de soucis. là, par contre, j'ai mis un truc sur une résistance sur mes capacités à y arriver. J'ai dit 2500 km, j'y arriverai jamais, je n'ai jamais marché, c'est pas possible. Et il me dit, je connais plus tes limites que tu ne les connais toi-même.
D'accord. Eh bien, avant d'aller plus loin, si vous permettez, justement, on va marquer une petite pause. On va garder le suspense pour les auditeurs qui nous écoutent. Et juste après, on va développer tout ça sur votre parcours jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. A tout de suite.
Enquête spirituelle. Vous aimez la lecture? Procurez-vous un de nos magazines. Découvrez des dizaines d'articles avec des auteurs de tous horizons, ainsi que de nombreux témoignages. Cliquez sur www.enquête-spirituelle.com et rendez-vous dans la boutique. Enquête spirituelle. spirituelle. Enquête spirituelle, c'est l'émission en podcast téléchargeable sur notre site www.enquête-spirituelle.com avec Amy et Laurent.
De retour pour la deuxième partie de cette émission Enquête spirituelle avec notre invité Jérôme Amiel qui nous parle d'ailleurs de son parcours et on en était justement arrivé au moment où il va aller sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc ça se passait un 24 mars et on lui disait donc qu'il allait partir le lendemain le 25 mars, hein, c'est bien ça?
C'est ça Laurent. Donc voilà, et donc arrivé à ces deux objections que j'ai faites et qui dont tu m'as répondu franchement divinement bien, j'ai été poussé en fait par une force, vraiment. Il m'a dressé une liste des affaires qu'il fallait que je prenne et m'a dit aussi clairement que j'ai juste à expliquer à ma famille, à mes enfants, à la mère de mes enfants, que c'est lui qui m'a dit de le faire et ils comprendront. Franchement, j'avais du mal à le croire, ça, hein, vraiment. Je suis arrivé le matin, j'ai expliqué, tout le monde a compris, vraiment. Et ma mère s'est proposée de m'emmener jusque Namur pour débuter le périple. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Donc, le 25 mars, voilà, je suis parti pour Namur, quoi. Et voilà, et donc l'Odyssée commence. Et alors, chose magnifique, vraiment, ça reste toujours des synchronicités, hein, mais il faut savoir que de Namur à Reims, j'avais aucun guide. Donc, quand j'arrivais devant un panneau, je prenais mon doigt comme un stylo et je demandais quelle direction prendre et on m'indiquait la direction. Donc, il faut savoir que le premier jour, ils m'ont fait tourner bourrique, puisqu'ils m'ont fait prendre un mauvais. En fait, de Namur, plutôt qu'arriver de partir vers Dinan, je suis parti vers Andenne. Et quand je suis arrivé vers Andenne, je me suis dit, mince, c'est de l'autre côté, ça, normalement. Je me suis fait complètement avoir. Et là, j'ai remis en doute, encore une fois. Et là, je me suis posé, j'ai pris le cahier et le stylo et j'ai noté. Et ce qui est sorti, c'est, tu nous as écoutés, tu nous as fait confiance, maintenant tu vas pouvoir faire du stop. J'ai fait du stop, normalement jusque Namur. Et en fait, c'est un couple qui s'appelait Christine et Christian. Donc dans Christine et Christian, vous entendez Christ. J'ai fait les rapprochements après, en fait. Hein. Donc très, très religieux, c'est ce couple-là. Ils m'ont donné une photo de Marie. Je leur ai expliqué un peu, c'était agréable. Quoi. Ils m'ont emmené jusque Dinan. Donc là, vraiment super. J'ai rien demandé, ils m'emmènent jusque Dinan. Arrivé à Dinan, je vais à l'office du tourisme en Belgique. C'est un autre nom, mais je me souviens plus vraiment. Et avant de rentrer dans l'office du tourisme, il y a un homme qui m'interpelle, qui me demande du feu. Comme je fume, je lui avance mon feu et on commence à discuter. De là, il me dit, il y a hors de question que tu payes pour dormir avec ce que tu fais. Moi, je t'héberge chez moi. Et il me demande comment je m'appelle. Voilà, je lui dis, je m'appelle Jérôme. Et je lui demande par politesse comment il s'appelle aussi. Et là, il s'appelle Gabriel. Je pense que ça vous parle aussi, Gabriel.
Bien sûr.
Tout à fait.
Et donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé réellement. Et voilà, j'ai marché. En fait, il faut savoir que j'ai marché seul pendant 700 km. J'ai fait des rencontres, mais pas assez fortes pour avoir l'envie de marcher avec les autres pèlerins. Et arrivé en fait sur Limoges, un petit peu avant, juste une étape avant, j'ai rencontré deux pèlerins de mon âge en fait. Et ça, c'est ça qui a fait toute la différence. Leïla, une Flamande d'Anvers, et Kevin, un Français qui vient des Alpes. Et ça a été tellement fort, vraiment, que on s'est plus quitté, en fait, tout simplement. On a marché. Et d'ailleurs, sur Limoges, Kevin devait arrêter le pèlerinage pour retrouver du travail. Donc on a fait un pot de départ, quoi. Hein. Mm-hmm. Et on s'est retrouvé dans un pub irlandais. Et je vous le dis franchement, la terre, elle aurait pu trembler, le monde aurait pu arrêter de tourner, on s'en serait pas rendu compte. On était dans une bulle, mais vraiment une bulle d'amour, sincèrement. Et par la suite, on a commencé. Je me suis retrouvé dans un couvent, en fait, hein, à côté de la cathédrale de Limoges, dans la chambre de Kevin, et on a discuté toute la nuit. Et le lendemain, il appelle son patron, il dit « Je démissionne ». Oui, absolument que je continue le chemin. Et ça a vraiment été un moment très fort, en fait, très fort du chemin. Alors, avant, je suis passé par JV, je suis passé par Reims, par Troyes, je vous donne les grandes villes, hein.
Oui.
Par Nevers. J'ai fait des belles rencontres, mais comme je vous dis, pas assez fortes pour vouloir marcher, en tout cas avec les pèlerins. Et vraiment, ce qui a changé mon pèlerinage, c'est vraiment cette rencontre, quoi, avec ces deux pèlerins. Et on a marché, et au bout d'un moment, j'ai dû m'arrêter parce que j'avais déjà, en fait, le lendemain que je les ai rencontrés, j'avais déjà une douleur, en fait, au niveau de ma cheville. Et en fait, j'avais des tendinites, je le savais pas. Et je les ai traînés jusque Périgueux, même jusque Bazas. Donc en gros, pendant 2 semaines, je les ai traînés. Et marcher avec des tendinites, je peux vous garantir que c'est difficile. Ouais. Donc arrivé à Bazas, j'ai dû m'arrêter. J'ai été chez le médecin. Impossible d'avancer plus loin. Même le médecin est venu me chercher, en fait, sur le chemin. Et le médecin m'annonce que je peux plus continuer, sinon un de mes tendons peut casser, quoi, peut avoir une rupture. Donc je suis forcé de constater que je suis obligé d'arrêter, quoi. Et là, c'est vraiment, je suis écœuré, quoi, clairement, parce que c'était devenu une idée fixe. Et vous imaginez, j'avais marché presque 1000 km, j'avais jamais marché de ma vie, et j'ai aimé marcher. Je redécouvrais le premier moyen de locomotion qu'on a, à savoir les pieds.
Tout à fait.
Et au-delà de la douleur, le chemin, il m'appelait réellement. C'était un appel, quoi. Donc, c'est vraiment franchement, c'est la mort dans l'âme que je décide d'arrêter, quoi. Je peux pas aller plus loin. Au moment où je décide d'arrêter, que j'annonce à mes parents que je reviens, je sors de la chambre dans l'auberge où j'étais. Je tombe sur une affiche du Secours Populaire avec une petite fille qui pointait du doigt, c'est « Je crois en toi ». Ça, vous imaginez même pas le bien que ça m'a fait. Ouais. Ça m'a eu du baume au cœur, quoi, vraiment. Donc, durant ces 3 mois, bah voilà, je suis rentré chez moi. C'était horrible, vraiment. J'ai jamais été aussi triste. En fait, l'immobilité, c'est beaucoup plus dur que le chemin, en fait. Incroyable. Et donc, mes amis, j'avais toujours des nouvelles d'eux, en fait, hein. Et ils sont arrivés d'ailleurs le 25 juillet, il me semble, sur Santiago, de ce que je me souviens. Et là, en fait, ça me revient, quoi. Je dis, il faut que je marche. Il faut que je vois si j'ai encore mal aux tendinites, quoi. Je marche. Premier jour, je fais 20 km. Voilà, je me promène près de chez moi, quoi. J'ai pas mal. Deuxième jour, je fais la même chose, mais avec mon sac plein. J'ai pas. Et là, je décide, c'est bon, je pars. Et là, je regarde sur le bon coin, pas le bon coin, mais je regarde sur un site de covoiturage qui pourrait m'emmener jusque Bordeaux et après que je puisse prendre un train, quoi, jusque Bazas. Et là, je vois à cette date précise, donc le 28 août, c'est nickel, je peux le faire. Donc je repars vraiment où je me suis arrêté, c'est ça qui est aussi bien. Je voulais pas repartir après ou avant, je voulais juste reprendre où je m'étais arrêté. Et là, la deuxième partie du chemin, ça a été une récompense. Vraiment, ça a été les plus beaux moments de ma vie. Là, j'ai pas peur de le dire, parce que j'ai fait. Vous dites, donc il me restait quoi, 7 étapes, il me semble, jusque la frontière espagnole, jusque Saint-Jean-Pied-de-Port. Et donc là, c'était tranquille. Hein, je veux dire, là, j'ai pas fait de rencontres spécialement des rencontres. Arrivé en Espagne, à Saint-Jean-Pied-de-Port, premier soir, c'était assez comique, hein, puisque j'avais marché 25 km. Donc l'étape du jour, quoi. Et il y a tous les pèlerins, là, tous les nouveaux pèlerins qui arrivent, qui font que le chemin espagnol, ils sont tout beaux, tout propres. Moi, j'arrive tout transpirant, tout dégueulasse. Et là, j'imaginais pas autant de nationalités, quoi. Vous imaginez, chaque jour, à Saint-Jean-Pied-de-Port, il y a 500 pèlerins qui partent par jour. C'est juste quelque chose d'énorme. Après, je pense que ça a été assez médiatisé par rapport à pas mal de films ou d'ouvrages récemment. Maintenant, voilà, quoi. Et le premier soir, on était 8 nationalités différentes à table. Donc, il y avait des Italiens, il y avait des Roumains. Il y avait 3 Italiens, une Roumaine, un Français, un Irlandais deux américaines, une japonaise, et il me semble que c'est tout, ce qui est déjà pas mal en fait. Trouver tous ensemble, voilà, manger une bonne petite salade, c'était super agréable. On a commencé à rigoler au niveau des différentes expressions de chaque langue, tout ça. Bah, ça, c'est les débuts, quoi. Hein. Et donc, voilà, le lendemain, on commence l'ascension des Pyrénées. Et je pensais pas que c'était aussi difficile, hein, sincèrement. Parce que, et le plus dur, c'est pas la montée, c'est la descente. Parce que, imaginez une côte à, je sais pas moi, je pourrais même pas vous dire combien de degrés, mais c'est très très escarpé. Ben, vous avez la même chose à descendre. Et c'était 28 km, il me semble, jusqu'à Roncesvalles. Mmh. Et voilà. Et je l'ai fait. Le soir, j'arrive au couvent. Je fais, ça y est, quoi, j'ai réussi, quoi. J'ai réussi à gravir une montagne. Super, quoi. Et donc, ça continue. Je fais des belles rencontres. Je fais des très belles rencontres. Et. Je passe, c'est assez difficile à tout concentrer en fait au niveau de l'explication. Mmh. Mais voilà, au niveau des rencontres par exemple spirituelles, en France, j'ai rencontré un SDF pour la société. En réalité, c'est un pèlerin depuis 2011.
D'accord.
Et cet homme-là, il s'est passé quelque chose de merveilleux avec lui. Il avait un chien, donc on pourrait dire vraiment comme un vagabond. Et on se retrouve dans une auberge Donativo. Donc on donne ce qu'on veut. Un Donativo, c'est ça en fait. C'est pas un prix fixe. Et on discute spiritualité. J'explique mon don, j'explique ce qui se passe en fait avec ma main, le stylo. Et il me dit, alors je vois que t'as pas confiance en toi, donc je vais te prouver que tu peux avoir confiance en toi. Et il me dit, je vais poser mes questions dans la tête et ton crayon va me répondre. Tu ne sauras pas les questions. Et effectivement, ça s'est passé. Et il y a eu les réponses.
D'accord.
Il attendait quoi. Et là, ça a été vraiment fort. Ensuite, on a été se coucher et là, on a commencé à discuter et j'ai vu quelque chose de magnifique. En fait, j'ai commencé à voir son aura tout autour de lui. Son visage notamment se transformer mais s'allonger en fait, son crâne s'allonger vers la hauteur. Et moi je l'ai comparé à un saint, sincèrement je l'ai comparé à un saint. J'ai compris certaines paroles de la Bible quand Jésus il disait allez, heureux soient les alcooliques et les vagabonds car ils sont sur une voie spirituelle. Et là honnêtement j'ai compris quelque chose de fort quoi, parce que on peut avoir des jugements. Vraiment, de toute façon, j'ai été confronté à ça. Je veux dire, dans certaines grandes villes, on m'a pris pour un vagabond. Et alors que, et là, je dis bien, l'habit fait pas le moine. Là, c'est vraiment le cas, quoi. Et il y a des rencontres comme ça qui sont juste magiques, qui vous font sentir que vous êtes au bon endroit au bon moment, tout simplement. Après, qu'est-ce qui a pu se passer comme rencontre? J'ai rencontré une femme au-dessus de Vézelay. Cette femme, je la connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Elle est attirée vers moi, elle veut discuter avec moi. Donc on discute, j'étais sur une aire de pique-nique pour manger un petit peu. Et la nana, elle commence à pleurer au bout de 3 minutes qu'on parle. Hein. Ou alors je me dis, mince, qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Et là, elle m'annonce que son fils est décédé il y a 2 ans, elle s'en remet pas. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai assumé le fait d'être médium, en fait. Je lui ai dit, écoutez, moi je suis médium, je peux voir s'il a un message pour vous. Donc, je prends le stylo. Donc je prends le stylo et je laisse aller. Et là, il y a un monsieur qui se présente. Donc je lui demande son prénom. Il dit, c'est pas mon fils. Je lui demande qui il est. Il dit, son frère. Et là, elle devient livide. Elle me fait, effectivement, j'ai un frère qui est décédé bien avant que je meure, que je naisse, pardon. Et donc là, après, c'est son fils qui est arrivé et qui a commencé à essayer de lui expliquer en 2 mots son monde et le nôtre. Donc en 2 mots, c'était assez particulier parce qu'il a dit que notre monde, il était magnifique. Leur monde à eux, il est merveilleux. Donc après, libre à chacun de faire son interprétation, mm-hmm. Parce que les mots, c'est assez restrictif. Et en même temps, ça donne énormément de sens. Donc voilà. Et cette femme, elle a été soulagée réellement. Ensuite, donc voilà, c'était parsemé comme ça de rencontres qui m'ont donné confiance en moi au niveau de mon don. Et voilà, tout simplement. D'accord. Il y a une fois sur le chemin où il y a un pèlerin, c'était un Anglais, il a voulu tester. Et il m'a dit que son père était décédé, alors que c'est pas vrai. Je lui ai clairement dit, tu es un menteur, donc ton père n'est pas décédé, il est toujours sur cette terre. Et là, il me dit clairement, il est confus. Clairement, il a voulu me tester, quoi. Mmh. Et donc, je lui ai dit, maintenant, tu sais quoi, tu vas prendre le stylo et tu vas le faire toi-même. Il l'a fait, il y a eu des réponses aussi. Après, je peux pas dévoiler aussi ce qui était dit, hein, pour pas rester pour eux.
Voilà, la vie privée, voilà. Tout à fait. Alors justement, avant d'aller plus loin dans toutes ces petites anecdotes, on va marquer une nouvelle pause dans cette émission Enquête Spirituelle. On se retrouve dans quelques petits instants.
Vous aimez l'association Enquête Spirituelle ? Enquête Spirituelle ? Soutenez-nous et faites un don via notre site internet www.enquête-spirituelle.com. www.enquête-spirituelle.com. Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Découvrez votre spiritualité avec Amy et Laurent. Enquête spirituelle.
Toujours dans cette émission Enquête spirituelle, nous sommes aujourd'hui avec Jérôme Amiel qui nous raconte son parcours, son pèlerinage jusque Saint-Jacques-de-Compostelle. Et justement, peut-être préciser, expliquer à nos auditeurs ce qu'est ce pèlerinage. Comment il est arrivé, pourquoi les gens le font.
Alors, en fait, à la base, pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est un chemin initiatique qui suit la Voie lactée. Et c'est un chemin initiatique pour les alchimistes, avant que les catholiques s'en emparent. Avec l'histoire de Jacques le Majeur, qui était un apôtre de Jésus. Et voilà, tout simplement, en fait. Hein. Donc, il faut savoir qu'au Moyen-Âge, pour absoudre ses péchés, les citoyens devaient marcher jusque Saint-Jacques-de-Compostelle. C'était le prêtre, à l'époque, qui ordonnait ça. Et pour la petite anecdote, il y avait certains bourgeois de l'époque qui payaient des valets pour faire ce chemin à leur place. Voilà. Donc ça, c'est le chemin, c'est l'historique du chemin. D'accord. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un chemin plus spirituel que religieux, parce que j'ai marché 2500 km et j'ai pas vu des fous de Dieu. Honnêtement, d'accord. J'ai vu des personnes comme vous et moi qui marchent. Moi, je les conseille. Il y a beaucoup de personnes qui font par tronçon, c'est-à-dire chaque année ils marchent 100-200 km. J'ai rencontré quelques personnes qui ont fait le chemin d'un coup, vraiment d'une seule traite. Et à force de discussion, je me suis rendu compte que les personnes qui faisaient ça d'une seule traite ou qui avaient l'intention de le faire, c'est qu'ils avaient vécu un malheur dans leur vie. Vraiment. D'accord. Moi, j'ai rencontré un homme qui a l'âge de mon père, 60 ans, qui a eu un AVC. Sa vie, elle a eu... avant l'AVC, c'était folklorique, quoi. Je veux dire, il buvait, il fumait, il prenait quelques drogues. Et du jour au lendemain, il a tout arrêté après son AVC. Et il a décidé de marcher jusqu'à Saint-Jacques. Une autre personne, elle c'était des problèmes avec ses parents, c'était vraiment je veux pas tout raconter parce que c'est y a la, comme on disait tout à l'heure, il y a le respect de la vie privée.
Bien sûr, chacun son histoire personnelle, en fait. Fois. Chacun son histoire personnelle pour faire ce pèlerinage.
Exactement. Exactement.
Est-ce que vous en aviez entendu parler avant?
Excusez-moi.
Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler avant de faire justement ce...
J'en ai entendu parler. J'avais une vingtaine d'années que je voulais déjà le faire.
D'accord.
Donc voilà. Maintenant, c'était juste une idée vague, hein, franchement. Hein. Je me dis, un jour, je le ferai. Et ça arrivait, quoi. Ça arrivait. Vous savez, je me suis rendu compte dans ma vie que chaque chose que j'ai voulu, je l'ai eu. C'est incroyable. Franchement, ça, c'est vraiment incroyable. Je vais vous parler par exemple d'une chose, c'est l'amour. C'est tout bête. Mais l'amour, je l'ai toujours cherché. Je me suis pris des gamelles, hein, mais j'y ai toujours cru en l'amour. Et sur le chemin, j'ai été récompensé. Parce que j'ai trouvé l'amour. Et je peux vous garantir que je sais que c'est la femme de ma vie. Elle s'appelle Valentina. Et je peux vous dire, je comprends certains messages qui ont eu lieu en France, de Dieu notamment, qui me disaient qu'arrivé à Santiago, j'aurais un trésor avec une valeur bien plus grande valeur que tout l'argent du monde. Et j'ai compris que ce trésor, c'était voilà, cette femme.
D'accord. Et ça, c'est arrivé du côté espagnol, je suppose, qu'on était arrivé là.
Exactement. Et alors ça c'était vraiment une histoire magique, vraiment, parce qu'on, si vous voulez, c'est une Italienne, Valentina, et on marchait depuis quoi, 3 semaines ensemble, 2 semaines, 3 semaines, et je parlais anglais, mais avec un accent français, donc vous imaginez un petit peu, ça fait rire, quoi, ça fait rire.
Franglais.
À chaque fois, elle me regardait, elle se marrait, quoi, vraiment, elle rigolait. Et un jour, je lui dis, mais tu vas arrêter de te foutre de moi. Tu vas arrêter. Je fais des efforts pour parler en français. T'as déjà entendu des parler français comme moi? Allez, parce qu'en France, on a la réputation de pas parler vraiment anglais, quoi. Et donc, au final, après, j'ai compris que, bah voilà, c'était pas du tout du foutage de gueule, si je peux appeler ça comme ça. Hein. C'était, il y avait une alchimie qui s'était créée, et c'était assez spirituel, parce que on a fait des exercices ensemble. Notamment pour revenir dans les vies antérieures, tout ça. En fait, un jour, on s'est assis, on s'est regardé dans les yeux, donc pour voir nos visages de vie antérieure. Je ne sais pas si vous connaissez le concept.
Non, du tout. Peut-être expliquer justement ce que c'est.
D'accord. Alors, en fait, pour voir nos visages dans les vies antérieures, pas revivre nos vies antérieures, mais juste voir les visages, il y a juste pour les personnes seules, à se mettre devant un miroir et se regarder droit dans les yeux. Et là, vous allez voir votre visage changer et les visages défiler surtout. Et donc, ou alors, si vous êtes plusieurs, vous pouvez le faire face à face. Vous voyez pas votre propre vie, mais vous voyez les vies antérieures de la personne. Et je l'ai fait. Et Valentina, à un moment, elle s'est exclaffée, elle a fait « Ouf, j'ai cru voir Jésus ». C'est fort quand même. Et après, en fait, si vous voulez, par les écrits que je notais tous les jours, hein, effectivement, elle a vu Jésus, pour une bonne raison, pour une raison bien précise. Mais ça, je vous en parlerai après. Donc voilà, que dire de plus à ce niveau-là, au niveau des vies antérieures? Pas grand-chose, à part que voilà, par rapport à ça. Donc c'était assez spirituel ce qu'on vivait aussi. Mais en fait, sur le chemin, il faut savoir que tout est décuplé, hein. Vraiment, hein. Puisque
ça doit passer par les lieux sacrés, des choses comme ça aussi, je suppose.
C'est ça. Il faut savoir qu'il y a je ne sais combien de millions de pèlerins qui sont passés avant nous. C'est un chemin chargé de spiritualité, de souffrance aussi, parce qu'il ne faut pas le nier, hein, parce qu'on souffre sur le chemin. Et voilà, donc il y a une énergie vraiment très forte sur le chemin. Donc voilà, bref. Il arrive un soir, c'était à Ocebrero, où, guidé vraiment par une force, vraiment, je prends sa main. Et j'avais peur d'être rejeté, hein. Honnêtement, j'avais peur d'être rejeté. Mais j'entends vraiment, c'est même pas entendre, c'est une force qui. C'est comme la force qui me poussait sur le chemin, vous voyez. De lui prendre sa main. Donc, voilà, je tente, je lui prends sa main. Et contre toute attente, elle se laisse faire, quoi. Voilà, on s'est fait un câlin, en fait, tout simplement. Au fur et à mesure. Parce qu'il faut savoir qu'à Ocebrero, c'est la Galice, hein, c'est l'entrée de la Galice. Donc, c'est les 200 derniers kilomètres. Donc là, voilà, je décide vraiment. On décide de vivre l'expérience à fond, quoi. Et voilà, tout simplement. Et arrivé au bout d'un moment, je lui ai dit voilà, est-ce que tu veux qu'on continue après le pèlerinage? Parce que c'est quelque chose de magique qu'on vit. Et il faut. Je pense qu'on peut tenter l'expérience. Et là, elle m'a expliqué après que son cœur, il a explosé quand je lui ai dit ça. Et on est toujours ensemble actuellement, et on va emménager ensemble là d'ici quelques jours. Donc elle fait un sacré effort quand même de venir en France, dans le nord de la France, parce qu'elle est italienne, donc elle a le soleil.
Oui.
Elle vient et on va commencer une autre aventure, quoi.
Donc comme quoi, je reviens un peu sur la coupure que vous avez eue dans votre parcours. C'est comme quoi c'était aussi nécessaire, cette coupure?
C'est clair.
Sinon, vous auriez loupé la rencontre.
C'est ça, exactement. D'accord. Aujourd'hui, je me rends compte vraiment que voilà, c'était nécessaire, ouais, clairement. Et que de toute façon, la première partie du chemin, je l'ai perdue, quoi. Je commençais à la perdre avec les rencontres que je faisais. Oui, c'est pas péjoratif du tout, hein, mais le but spirituel, je le perdais.
D'accord.
Vraiment. Et de toute façon, le fait de m'être arrêté deux mois, en fait, exactement. Deux mois, ça m'a tellement frustré que je n'avais qu'une hâte, c'était recommencer. Mmh. Voilà. Donc après, j'étais pleinement dedans, quoi. J'étais pleinement dedans. Il faut savoir aussi que j'avais, durant la première partie du chemin, j'avais très gros problèmes financiers. Et j'ai fait l'autruche. Mmh. Bon. Et donc, ça a tombé à pic à ce moment-là, puisque j'ai pu repartir à zéro. J'ai pu créer des actions pour financer mon pèlerinage tout en faisant une bonne action, puisque j'ai marché pour ELA. Je sais pas si vous connaissez cette association.
Non, parlez-nous-en. Non.
ELA, en fait, c'est une association qui lutte contre la leucodystrophie. Et bah, notamment Zinedine Zidane, bah, voilà, et pour cette association.
D'accord.
C'est une maladie orpheline, en fait, la leucodystrophie. Et qui joue au niveau sur le cérébral, en fait. Hein. Et je me dis, autant joindre l'utile à l'agréable, autant aider mon prochain, en fait. Oui. Ça peut être un peu bizarre ce que je dis, la façon dont je dis ça, mais autant aider mon prochain. Et donc j'ai commencé à prendre contact avec la directrice d'ELA, et qui m'a soutenu complètement. Ce qui a fait que j'ai créé, en fait, une tombola en vendant des cases. Donc je faisais du porte-à-porte, en fait, dans mon village.
D'accord.
2 € la case. Le gain, c'était un ballotin de chocolat, mais peu importe, c'était anecdotique. C'est surtout pour aider, quoi, et pour financer mon pèlerinage. Donc résultat, j'ai réussi à rapporter 150 €. Alors c'est pas énorme, vu les kilomètres que j'ai parcourus. Mais il faut savoir qu'en Espagne, c'est très difficile de vendre des cases, puisque je parle pas du tout espagnol. Je parle anglais, je me débrouille en anglais, mais c'est pas le but non plus des pèlerins. Mmh. Vous voyez, et il y a surtout beaucoup de personnes aussi qui prennent le chemin comme, vous voyez, comme un business. Et donc il y a une peur aussi à ce niveau-là. Mais toujours est-il que j'ai ramené de l'argent à l'association, et je suis heureux de ça. Parce que si j'ai pu contribuer, même si c'est 150 €, c'est ça.
Bien sûr.
Voilà. Et voilà. Donc, pour revenir sur le chemin, sinon, donc arrivé près de Santiago, en fait, quand nous sommes arrivés à Santiago, parce que faut savoir que après on s'est plus lâché, que Valentina, on a toujours marché à deux, et on arrive à Santiago devant la cathédrale. Là, franchement, ça a été vraiment énorme, parce que je me suis dit, j'ai marché 2500 km, ça y est, je suis au but. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu de l'obstination, quoi. J'avais un but autre que financier. Et j'ai jamais été aussi heureux, d'ailleurs, que sur le chemin, vivant simplement.
D'accord.
Oui, sans matériel, quoi. Et arrivé donc devant cette cathédrale, ce qui est juste énorme, c'est que la vie a fait que j'ai retrouvé tous les pèlerins que j'ai croisés sur le chemin, tous, sans exception. Et et les larmes sont coulées, ont coulé forcément. Et c'est vraiment un moment magnifique, quoi. Magnifique. Alors, faut savoir que j'étais assez frustré, parce qu'à un moment, si vous voulez, quand on arrivait sur cette place, on rentre dans la cathédrale et la messe des pèlerins commence.
Mmh.
Et même avant de commencer, en fait, je m'assois, je prends le stylo et je veux noter. Je fais ça y est, mon Dieu, je suis arrivé. Et là, il me dit, c'est bien, mon fils, je suis fier de toi, place à la messe. Et là, je suis frustré. Je me dis, j'ai pas marché tout ça pour ça. Je voulais vraiment. Je sais pas, c'était pas. Après, c'était peut-être mon ego qui parlait, mais je voulais être félicité, quoi. Plus que ça. Alors, il s'avère que mon pèlerinage, il s'est pas arrêté à Santiago même, puisque j'ai décidé de marcher plus loin, en fait, jusqu'à Muxia. Donc, c'est jusqu'à la mer, en fait.
Mmh.
Et il faut savoir qu'à Santiago, j'ai attrapé des puces de lit. Alors, les puces de lit, c'est des bébêtes, hein, qui dorment dans le lit et qui te piquent
une
fois que tu dors. Donc, c'est merveilleux. Et pour t'en débarrasser, c'est hyper dur. Hein. Donc, c'est pas grave. Je continue ma route. J'arrive le soir dans l'auberge, entre les deux étapes. Et là, je me couche à 23h. À 23h30, je suis réveillé par justement ces gratouilles, quoi. Ça grattait, quoi. Et plus moyen de m'endormir, quoi. Plus moyen. Et là, à 3h du matin, je prends le stylo et c'est parti. La conclusion. La conclusion de Dieu, elle est là. Elle est là. Poum, 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 ça y va. Toute une page merveilleuse. Sincèrement, pour vous dire un petit peu, après cette conclusion qui m'a écrite, j'ai dit, j'en suis cloué. Donc, référence à Jésus, mais j'étais épuisé, moi je me suis pas rendu compte de ce que j'ai écrit. Mm-hmm. Quand je me suis rendu compte, je fais « Oh, excusez-moi, je voulais pas noter ça, excusez-moi. » Et là, il me dit « Tu n'as pas été excusé, mon fils. Je t'annonce de cette façon que tu es prophète. » Et là, vraiment, je suis resté sur les fesses parce que je suis qui pour être prophète ? Je suis personne. Je suis juste une personne normale qui a eu une dose, effectivement, une bonne dose de souffrance dans sa vie, mais voilà, j'ai pas un ego démesuré et non, c'est pas. Je refusais cette tâche, sincèrement, je refusais. Et si vous voulez, il y a une pèlerine qui m'a dit, c'est pas quelque chose que tu choisis. On t'a choisi. Mmh. Tu as choisi. Et alors après, la vie a fait que j'ai rencontré d'autres personnes depuis que je suis revenu. Un autre homme qui s'appelle Sébastien, qui lui aussi a un rôle très important à jouer. Et voilà, après ça, c'est d'autres, une autre histoire. Mais voilà, donc la conclusion de cette odyssée merveilleusement divine, elle est dans le fait que, voilà, que c'est pas la destination qui compte. C'est le voyage.
C'est le chemin, ouais. Tout à fait.
Justement, voilà. On pourrait peut-être terminer là-dessus sur ce qui a changé en vous.
Quel bilan vous en tirez, justement ? Voilà.
Alors, ce que j'en tire, c'est... Je relativise. Maintenant, je relativise énormément. Mm-hmm. C'est incroyable. C'est incroyable, vraiment, dans la vie réelle, comme je peux l'appeler, comment on peut se prendre la tête pour des broutilles. Mais vraiment pour des broutilles. À partir du moment où il y a un problème, il y a une solution, maintenant. Vraiment. Il faut vraiment, en tout cas pour ma part, moi c'est mon point de vue, tout ce qui est matériel, je le mets de côté. En tout cas, j'essaye, parce qu'il y a un minimum pour vivre. Mais je ne pourrais pas décrire ce qui a changé en moi. Il faut le sentir, ça vivre. Mmh. C'est quelque chose à vivre. Vous m'auriez eu au téléphone il y a 2 ans. Je ne suis pas du tout le même. J'étais pas du tout le même. Même en mars dernier, avant mon chemin, j'étais pas du tout le même. Là, j'ai... Ouais, moi, vous savez, j'ai retrouvé des valeurs de solidarité, des valeurs d'écoute que les gens n'ont pas. Par exemple, vous savez, sur le chemin, tout le monde se dit bonjour. Tout le monde. Moi, dans ma rue, si on se dit bonjour à peine, c'est bien. Ouais. Et bien, vous savez, quand je suis revenu, j'ai frappé à toutes les portes. Je dis, voilà, je m'appelle Jérôme Amiel. Je vous dis bonjour. Et je veux discuter avec vous. On est des hommes. Vous êtes comme moi. Mmh. On a une langue. Voilà. Il faut parler.
Il y en a qui ont dû tirer une sacrée tête.
c'est clair. C'est clair. Parce que pour la plupart des voisins, ils m'ont connu depuis que je suis tout petit. Hein. Mmh. Seulement, la vie a fait que chacun s'éloigne. Chacun s'éloigne. Et voilà. Et donc, j'ai été reprendre contact. Et moi, j'incite tous les auditeurs, vraiment, à parler. Avec n'importe qui, c'est pas grave. Je veux dire, on est fait tous de la même façon. On a 2 mains, 2 pieds, on a 10 doigts. Donc, autant discuter, autant partager. Ça, c'est le partage, c'est quelque chose d'important dans la vie.
Tout à fait.
Vraiment. Et voilà, tout simplement, ce que je peux dire. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il y a un livre que j'ai écrit par rapport à ça, par rapport à cette expérience, qui attend d'être publié. Et j'en doute pas qu'il sera publié, ça c'est clair, parce qu'il y a des messages très importants dans ce livre. Et voilà, tout simplement.
D'accord. Tout ça. Et puis on peut préciser aux auditeurs que votre témoignage sera également diffusé dans le prochain magazine, qui paraîtra fin mars.
Voilà.
Voilà, donc un petit aperçu, et on mettra donc quelques photos de votre voyage.
D'accord.
Et puis merci beaucoup pour ce témoignage, justement, comme vous dites, on est là pour partager, échanger et... Voilà, c'est le but de l'association aussi, et on continue dans ce sens. Donc, merci à vous.
Merci d'avoir été avec nous.
Si je peux me rajouter quelque chose, c'est que si certaines personnes, certains auditeurs qui veulent discuter avec moi au niveau de cette expérience, veulent, par rapport par exemple à des proches disparus, et veulent rentrer en contact, moi je suis là, il n'y a pas de souci, je peux vous laisser mes coordonnées en antenne, il n'y a pas de problème.
Tout à fait, vous pouvez déjà peut-être donner votre email, si c'est pas un email trop perso, vous pouvez le dire directement.
Donc mon adresse mail, c'est donc tout en minuscules et sans accent, donc jérôme.amiel, donc Amiel, A-M-I-E-L, elh@wanadoo.fr.
D'accord.
Voilà, très simple. Donc votre nom, votre prénom, enfin votre prénom, votre nom, avec un point entre les deux, @wanadoo.fr. On le mettra également, bien évidemment, dans le magazine et sur notre site internet dès que l'émission sera en ligne. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jérôme. Un très merci. Très beau parcours, très bien raconté.
Merci.
Merci pour votre joie de vivre et merci de m'avoir donné l'opportunité de raconter cette expérience.
Mais avec plaisir.
Avec plaisir.
Merci à vous.
À très
merci
bientôt.
Merci aux auditeurs aussi, aux auditeurs.
Voilà, merci à notre invité d'avoir été avec nous. Donc toutes les infos, ce sera dans notre prochain magazine pour ceux qui veulent découvrir les photos en plus du témoignage et quelques petites anecdotes supplémentaires. Et je vous rappelle donc www.enquête-spirituelle.com pour le site internet et également sur la page Facebook. Vous tapez Enquête Spirituelle et vous avez également toutes les informations. Merci beaucoup Amy.
Merci Laurent, à bientôt.
À bientôt pour une nouvelle émission Enquête Spirituelle.
Toute l'actualité de votre association, c'est sur la page Facebook Enquête Spirituelle ou sur le site www.enquête-spirituelle.com. Enquête Spirituelle, intuition, ressenti, paranormal, énergie, destin, réincarnation, médium, voyance, radiesthésie, spiritualité, tous ces sujets et bien d'autres, c'est maintenant dans votre émission. Enquête Spirituelle. Vous aimez la lecture? Procurez-vous un de nos magazines. Découvrez des dizaines d'articles avec des auteurs de tous horizons, ainsi que de nombreux témoignages. Cliquez sur www.enquête-spirituelle.com et rendez-vous dans la boutique.